Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h.
L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis.
L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale.
Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66.
Par mail à l'adresse 94degrésalombre@protonmail.com
ou par courrier à l'adresse Canal B 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes.
Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B.
Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre.
A tout de suite!
Coucou tout le monde!
Salut!
C'est Sauterelle et c'est. Dites vos prénoms.
C'est elle.
Moi c'est Camille.
Moi c'est Falco.
Et yo
êtes...
yo!
Coucou! Et vous êtes sur 94 degrés à l'ombre!
Mais non!
Mais non! il est midi 2, on est vraiment à l'heure. Du coup, on va vous présenter un peu 94 degrés à l'ombre, même si je pense que la plupart vous nous connaissez déjà. On est une radio qui essaye de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur des prisons. Du coup, en première partie d'émission, on diffuse des messages que des proches ont laissés, aussi des dédicaces musicales. On vous donnera un petit point contact à la fin pour que vous puissiez nous appeler, nous envoyer des mails. Et en deuxième partie, donc de 13h à 14h, on fait plus on discute quoi, on blablate beaucoup de l'actualité dans les prisons ou même dans le monde en général, beaucoup sur les luttes et les luttes contre les lieux d'enfermement. Voilà, je sais pas s'il y en a qui veulent compléter.
Bah, on veut pas vous spoiler, mais on va parler de plein de trucs hyper intéressants. Ou Falco, je sais pas si vous voulez parler de ça, mais en tout cas, on va parler d'un maton qui s'est suicidé, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça. Et je crois que Camille, tu nous as aussi préparé plein de sujets. On va pas tout spoiler, mais au moins donner un petit peu envie de rester pour cette deuxième partie d'émission.
Bah ouais, on va parler du 10 septembre. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a en tout cas une ébauche de mouvement social qui se prépare. Donc on va vous parler d'un peu comment suivre cette lutte, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis ça peut donner un peu... ça permet à vous les détenus qui nous écoutez, c'est dur à dire, de savoir un peu ce qui se passe aussi dehors. C'est important, je pense, de garder les yeux là-dessus. Je sais pas si c'est bien dit, mais j'espère que vous avez compris. On va parler aussi des zones d'attente dans les aéroports, les gares et les ports également. Et on va raccrocher ça au centre de rétention administratif avec les associations type CIMAD et tout, qui sont, selon notre lecture, des traîtres. Donc on va vous parler un peu de notre vision de tout ça. Et tu voudrais nous lire un livre à la fin pour faire une petite lecture?
Ouais, s'il y a le temps, je voulais vous lire genre un petit bout de mon livre préféré, mais je vous en dirai plus tout à l'heure s'il y a le temps, sinon ça sert à rien de teaser. Voilà. C'est bon. On n'a pas du tout préparé de son à nous pour introduire, donc on va commencer directement. Ouais. Sauf si vous voulez faire une petite chanson improvisée, mais sinon on va commencer direct... Oh, je fais des bêtises.
Peut-être on peut lire toutes les dédicaces qu'on va avoir.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui.
Voilà.
Et alors je vais les trouver. Et donc, alors nous on a des dédicaces pour Aurélie de la part de ses parents et aussi de Romain, Claudette et Bernard. On a une dédicace de Fred pour Pascaline, une dédicace de Bruno pour sa belle-sœur et une autre pour sa femme Dominique. Une de Diane pour Mourad, une de Kaleï pour Orman. Et une de Malika pour Norman. Si jamais vous nous aviez envoyé quelque chose et que vous n'êtes pas dans cette liste, c'est pas trop tard. Vous pouvez nous contacter sur Facebook notamment. Ouais, surtout sur Facebook. Voilà. Et si vous êtes en retard même pour envoyer, c'est pas trop tard non plus. Plutôt pas par appel, mais sur Facebook, vous pouvez laisser un message vocal.
Je viens d'apprendre que Kerry nous avait laissé un message vocal. C'est super. Ou une dédicace, je sais pas.
Non, juste une dédicace.
Bon, je te fais des bisous.
Pas une dédicace. Oui, c'est vrai. Enfin, elle a écrit un message, quoi.
Ok, dans tous les cas, ouais. Je te fais des bisous.
On pense fort à toi, Kali. Et donc, pour commencer cette émission, on va écouter le message vocal des parents d'Aurélie pour Aurélie. Et ensuite. Non, on va commencer par Claudette, Romain et Bernard parce que. Voilà.
Parce que c'est comme ça.
Parce que c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, on écoutera leur dédicace pour Aurélie qui est. Butterfly de Superbus et Rory. Bonne écoute.
Youhou.
Merci. Bonjour, c'est Romain, c'est pour Aurélie. Je te fais de gros bisous et de gros câlins. Et puis, on a pris le livre de télé, c'est Superbus sur le livre de télé.
Bonjour Aurélie, c'est Claudette, je te passe Bernard.
Coucou Aurélie, c'est Bernard, c'est Jeanne Encourage et on t'aime, gros bisous.
Bonjour Aurélie, j'espère que tu vas bien, on pense à toi très très fort. Bon, on est rentré d'hier, hein. C'est bon, on a bien roulé, on est arrivé à la maison, hein. Et on pense très fort à toi et on t'aime. Gros bisous Aurélie, Romain il veut te dire un petit mot.
Je te fais de gros câlins, je te fais de gros bisous.
Voilà Aurélie, hein. On pense très fort à toi, d'accord. Puis, bisous Aurélie, allez, au revoir Aurélie.
Je m'en vais pas, je t'attends jusqu'au bout.
C'était Butterfly de Superbus et Rory. C'est ça, hein, je
oui,
me trompe
ça,
pas.
Oui, c'est ça, exactement.
Je crois qu'on va passer une autre dédicace pour Aurélie, cette fois-ci de la part de ses parents, avec un message vocal. Et puis ensuite, on aura une musique qui est Rue des Étoiles de Grégoire. C'est bien ça, Sauterelle ?
Exactement. Oui, c'est exactement ça. On espère que tu peux nous entendre, Aurélie. Eh bien, c'est parti.
Ok.
C'est bon.
Je m'en vais pas. Je t'attends. Non, pas.
pardon, c'est pas ça. Désolé.
Petit problème technique, hein. Mais ça va venir.
L'erreur est humaine, hein, comme
voilà.
On dit.
Comme on dit, hop, c'est.
Ouais.
C'est bon.
Rome ne s'est pas fait un jour.
Je m'en vais pas. Mais... Je t'attends jusqu'au bout.
Ah, toujours pas. Hein.
Mon cœur
pas
eu
la suite des messages vocaux. N'écoutez pas trop.
Oh non.
Fermez vos oreilles.
Ou alors bah, peut-être on peut mettre.
Dans les trucs.
Je m'en vais
on
pas.
On va commencer peut-être à mettre la musique et
ouais,
pendant ce temps, on va chercher le message vocal pour Aurélie.
Je vais chercher le petit message vocal.
Allô là, je suis dans le bus, le 41 pour Vénus, celui qui va jusqu'à Mercure. J'ai pas pris la ligne 21, y avait trop de monde sur la lune, il fallait descendre à l'azur. Et toi, où es-tu dans l'espace? Attends, je n'entends plus, je passe dans un tunnel d'astéroïdes. Avant le trou noir, que tu n'irais pas voir ce soir ta sœur et son mari, droïde. On pourrait se rejoindre. J'ai des rêves à te peindre. Retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal d'où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi rue des étoiles, pas loin du boulevard de l'État, à bord de mon vaisseau spatial. On se rappellera. Toi et moi, toi et moi, on se baladera sur Neptune, ces deux planètes après Saturne, il faudra suivre les comètes. On apercevra Uranus, aussi Pluton, le terminus, là où la galaxie s'arrête. On n'ira pas sur Mars, car c'est là qu'habite la garce qui t'a volé ton ancien mec. Mais oublie tes nuits sans sommeil, de l'infini jusqu'au soleil, je t'apprendrai à vivre avec. Et tellement d'autres choses, l'envie en overdose. Retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal d'où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi rue des étoiles. On se rappellera la terre.
Donc, pour Aurélie à Rennes, bonjour Aurélie de la part de papa et maman et de tes enfants. On espère que tu vas à peu près bien. Bon courage pour la semaine prochaine et puis fais attention à toi. On t'embrasse très très fort et puis très gros bisous et à bientôt.
Bonjour Aurélie, c'est maman. Bon, Luna et Titouan, ce sont des gros bisous Aurélie, hein, je pense à toi. Bon, j'espère que ça va, essaie de garder le moral, fais attention à toi, on t'embrasse très très fort et puis on te fait plein de gros bisous. Bisous.
Et donc, c'était Rue des Étoiles de Grégoire, de la part des parents d'Aurélie pour Aurélie. Désolée, j'ai un peu galéré à retrouver le message, mais il n'était pas perdu. C'est une très bonne nouvelle. Qui veut annoncer la prochaine dédicace ?
Eh bah, bien, je peux m'en charger. Voilà, la prochaine dédicace, elle est de Fred pour Pascaline, avec la musique Les Barbares de Lavillier. Voilà, une bonne écoute. J'espère que ça va vous plaire.
J'écoute, moi.
Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du Basnes. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, l'eau fourneau mijotait ses dollars. La fumée ruisselait sur nos casques rouillés. Dans le vestiaire cradingue, 5 minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays dociles. Il rêvait des tropiques tropicaux. Plein d'eau à 30 degrés, plein de forêts sanglantes. Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud. Épinal leur fourguait ses images en partance. Le fils du patron venait nous visiter. Au sortir du nightclub avec de jolies femmes. Il nous regardait faire, essayait d'estimer la montée de la courbe, la chaleur de la flamme. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays dociles. Bourgeois adolescents aux mythes ouvriers, militants acharnés de ce rêve qui bouge, qui serait un beau jour de gauche bien rangé. Tricolore et tranquille, la zone, c'était rouge. La noirceur des blousons nous faisait des étés sombres comme les fleurs de nos arbres acryliques. Nous déroulions nos chaînes essayant de décrocher la montée de l'amour, de la paix et de la musique. Quand le car avalait sa ration de 6 heures, de mains brûlées de silicose et de gros rouge, nous rentrions vidés dans nos cuisines seules. Un sourire, un café, la douce, rien ne bouge. La radio tapinait à l'étage inférieur. On dormait dans l'enzyme et dans le carrefour. Puis nos têtes plongeaient vers des mondes meilleurs. Nos mamans affairées voyaient baisser le jour. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays dociles. Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone, vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays tranquilles.
Et voilà, c'était Les Barbares de Lavilliers. Et maintenant, si ça vous dit, on peut passer à la prochaine dédicace. Cette fois-ci, c'est de la part de Bruno pour sa belle sœur. Et il propose la musique See You Again, Sit de Charlie, si j'ai pas de bêtises.
Ouais, je crois que c'est Feat Charlie.
Ah, ok, ça c'est fait plus de sens.
C'est de Wiz Khalifa et Charlie quelque chose. Bonne écoute.
Bonne écoute.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Let me tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small. Turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Et voilà, c'était See You Again de Charlie feat. Je ne sais plus qui, j'ai pas sous les yeux.
Charlie et Wiz Khalifa.
Voilà. Et la prochaine dédicace, c'est encore de Bruno et cette fois-ci pour sa femme Dominique. Et il dédicace la musique Love Me Tender de Elvis.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Et c'était Love Me Tender de Elvis. C'était une dédicace de Bruno pour sa femme Dominique. Et maintenant, on va écouter le message de Diane pour Mourad. Et ensuite, on écoutera la musique qu'elle lui dédicace. C'est Gypsy King. Enfin, c'est de Gypsy King et c'est Sin Ella. Elia. Et non, Ella. Sin Ella. Bonne écoute.
On y va alors.
Oh non. Pardon.
Bon, on y va alors.
En fait, j'explique à tout le monde. Je me sens obligée de me justifier.
Pour Aurélie Arren.
J'ai mélangé tous les noms des vocaux, mais ils existent tous. Hein, oui, on m'entend. Non mais j'explique à tout le monde parce que en fait, mais je promets que j'en ai perdu aucun, juste j'ai tout mélangé. Alors là normalement ça devrait être bon.
Je m'en vais pas, je t'attends jusqu'au bout. Mon cœur t'a cherché jusqu'à Vézin-le-Coquet avec Walou, au moins 3 fois. Même l'assistante sociale de la prison est venue me voir, me voyant bouleversée quasi au sol. Tout le monde fait des conneries. Toi Morad, t'es un gentil qui mérite sa seconde chance avec moi. Dans la même direction. J'ai plusieurs rêves, mais un fait battre mon cœur depuis des années-lumière. Et je m'y accroche, c'est toi. Je ne cours pas après des chimères. Folle d'amour pour toi, je cours la maladie d'amour. Je te parle à cœur ouvert. C'est un cri du cœur qui résonne jusqu'à toi. C'est la force de notre amour qui résiste toujours, que ça plaise ou non. Laisse jaser. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aimais hier, je t'aimerai demain, et je t'aime aujourd'hui encore plus fort. Je relance un SOS d'amour pour toi, comme une bouteille à la mer. Enfin, je cite, on ne badine pas avec l'amour, et l'amour triomphe de tout. Allez, courage, je t'aime.
Y sufriendo, dejamos, pero nunca nos olvidamos.
C'était Cinella de Gypsy King, un son de Diane pour Mourad. Et maintenant, je vais vous lire un message que Kalei nous a envoyé. Et ensuite, on écoutera Soul King de Milano. Alors, je cherche Kalei.
En attendant, on embrasse fort Kalei et Orman, bien sûr. Voilà, vous nous manquez fort, on a hâte de vous revoir, on pense à vous. Prenez soin de vous.
Alors, coucou l'équipe 94 degrés, c'est Kalei, tout le monde va bien. Alors, ça on n'était pas obligé de le lire en fait, je passe direct un message pour Orman.
Pour répondre oui, on va bien.
Ça c'est du backstage.
Mais en fait, je lui ai répondu, donc, mais on peut répondre à tout le monde. C'est pas grave. Si ça intéresse tout le monde, on va tous bien, je crois. Alors, salut ma petite gâchette. Je pense beaucoup à toi, tous les jours, tous les soirs avant de m'endormir. Je te parle à voix basse, de ces rêves qui envahissent l'espace, ceux dans lesquels tu as la première place. Bientôt tu seras libre, bientôt nous ferons la fête et nous pourrons surtout prendre ce nouveau départ qui nous attend depuis un bail. Bientôt je te verrai franchissant ce portail. Nouveau compte à rebours mon amour, car oui, nous ensemble, je suis pour. Nous allons vivre, mon homme, pour tenir nos serments secrets, pour trouver l'équilibre sans plus rien de suspect. Tu sais que je t'aime à la folie, oh oui.
C'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car penser, j'ai ma tactique à ton
écolement.
Je vais la baisser, je vais. Pardon, oh là, mais elle est où? Mais elle est cachée quelque part, mais. Malika, elle nous sabote l'émission. Non, c'est pas la faute de Malika. C'est incompréhensible. Mais il y a pas, je vous jure qu'il y a pas d'autre onglet, genre. C'est où?
Bah sinon tu refais une recherche.
Mais je l'ai, en fait, genre j'ai lancé le. Ça arrive.
Ça arrive.
On a juste des petits problèmes techniques, mais en c'est tout cas... comme ça. C'est, on est très proche des
éditeurs. Toujours pas. Mais il est midi 36, vous êtes toujours sur Canac B. On a plein de soucis techniques et on s'amuse beaucoup dans ces studios. Nous, on est une radio anticarcérale, c'est 94 degrés à l'ombre. Donc, c'est-à-dire qu'on fait du lien avec les personnes détenues et on milite, ou en tout cas, on fait en sorte de, que la prison soit moins une zone d'ombre. Et voilà. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on est une radio où on est tous un peu... Bah, ce qui nous rassemble, c'est qu'on n'aime pas l'enfermement. En tout cas, on trouve que ce n'est pas une bonne solution à long terme. Donc voilà, si vous voulez nous contacter, tout ça, envoyez-nous des mails, téléphonez-nous. On vous fera un petit point contact tout à l'heure.
Et je crois que la musique a été retrouvée. Donc on va pouvoir continuer cette dédicace pour Orman de la part de Kalei.
La 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 la,
Et voilà, c'était la dédicace de Kalei pour Orman. On a finalement trouvé la musique. Donc cette fois-ci, on va pouvoir écouter pour de bon la dédicace de Malika pour Norman. Elle nous a laissé un message vocal, ainsi que la musique, du coup, la tactique du gendarme de Bourville. Et on va pouvoir s'écouter ça tout de suite, dès que Sauterelle est prête.
Attends, Calice, deux secondes. Donc, bonjour à 94 degrés à Londres, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie, je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous faites. Et puis, c'est le chaton, il m'embête. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Sinon, bah, bonjour à toutes les détenues. Bonjour à tous les détenus. Je pense très, 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 très fort à vous. Je vous envoie plein d'ondes positives que je réussis à créer en moi. Et puis, je suis en train de lire. Et puis surtout, ben, force à vous. Je vous embrasse très, 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 très fort. Allez, et fuck le Heps, on va le dire maintenant. Allez, fuck le Heps. Ah, mon fils, mon cœur, mon amour, Norman, Nour. Salam alaikum, mon fils. Ben, voilà, il n'y a pas longtemps, je vais quand même abréger parce que je prends l'antenne un peu longtemps quand même. Il n'y a pas longtemps, Kaina, la petite copine de Soren, et m'a envoyé un messenger pour venir passer une petite soirée avec moi parce qu'ils sont retournés ensemble, je suis contente. Et puis Soren travaille à Saint-Malo dans la restauration, pardon. Et oh, les chats, ils sont énervés. Oui, mon calice, j'arrive. Et puis et donc Soren est arrivé chez Yo à 2h30, donc on a fait nuit blanche et ben on a parlé beaucoup de toi, je suis trop contente. Et il te fait plein de gros bisous, il te passe le salam. Et puis voilà, voilà. Donc je suis hyper heureuse, mon petit cœur d'amour. Donc mon Norman, ma maman, elle te fait plein de gros bisous. Quoi te dire, ben, que je suis de tout cœur hein, avec vous tous. Et surtout, ben, soutien, solidarité, pas de division, quoi. Mais bon, voilà mes petits cœurs, mon petit cœur. Je suis sous cortisone à cause de mes dents, là. Donc je suis peut-être un petit peu speed, mais c'est pas grave. Il y a Calice qui monte sur mon dos et qui s'amuse avec ma queue de cheval. Ah, mon pépère, ça va, t'es à l'aise? Voilà, mais mon petit cœur, je te fais plein de gros bisous, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bisous mon cœur et fuck le Heps. Bisous, je t'aime Norman, salam alaikum, mon fils, mon cœur, mon amour, ma vie. Bisous, ta maman. Sinon, bonjour Orman. Bah écoute, c'est pareil, pour te faire plein de gros bisous. Je n'oublie pas non plus Norman en fauteuil roulant, qui je fais également plein de gros bisous. Et ben moi, dans, voyez-vous, j'ai Norman, Orman, et ça n'est pas bien sûr péjoratif. Il y a pour moi Legman, et leg c'est jambe en anglais, donc je me suis dit Legman, ça fait trois Norman, trois Orman, Norman, Legman. Oui, mon chat, t'es d'accord avec moi? Oui, bon bah c'est impeccable. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et surtout, tenez le coup et fuck le Heps. Bisous mes petits cœurs, bisous. Oui, mon petit Norman, comment, je voulais juste rajouter que la nuit blanche qu'on a passée, mais pour moi c'était sans alcool, hein, parce que j'ai arrêté depuis le 23 février, depuis l'anniversaire de ta sœur. Pourquoi, alhamdoulillah. Voilà, pour te dire que j'ai pas retouché une goutte d'alcool, que ça me m'écœure, voilà, et que voilà, j'en veux plus, mais je reste vigilante. Gros bisous, mon petit cœur, je t'aime, mon fils, je t'aime.
me dois t'avoir. De très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit t'avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car penser, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier. La tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. La tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Et c'était la tactique du gendarme de Bourville. Et
très
il est midi 48.
Choix de musique.
Oui, et on rappelle que nous, à 94 degrés à Gombre, on nique les cops, on nique les gendarmes, tout ce qui est uniforme, on rejette. Voilà. On pourra en débattre si vous voulez. Vous avez le droit d'être pas d'accord.
Et je crois que la prochaine dédicace, c'était Falco qui voulait la faire. Voilà, si ça te dit de prendre le micro, Falco, n'hésite pas.
Bah, et c'est parti. Hein. Donc, c'est une petite dédicace à ma petite femme, Ingrid. Et à ma belle-fille, Léana. Et aussi à ma fille, Shaina. Donc, la musique associée, c'est Amir Rétine. En espérant que ces personnes-là écoutent cette musique.
C'est parti de rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée. Le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joies. C'est pas très grave si on ne sait pas. Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément. Mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Qu'on se va bien, comme comme lèvres douces et peaux salées, comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Et si demain on n'avait plus rien, je te dirais pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. 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 L'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi.
Et voilà, c'était Amir de Rétine.
L'inverse.
Ah, c'était Rétine de Amir, pardon. Et la prochaine dédicace, elle est pour Norman H. de la part de Kat et Lily, qui lui disent « Coucou papa, on t'aime fort, on va bientôt à l'école, des gros bisous. »
Moi, je voulais juste préciser, si je ne me trompe pas d'artiste, je crois que j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps, que Amir, c'était un sioniste qui défend Israël. Donc, on voulait juste préciser ça, qu'on ne soutient pas cet artiste, même si la dédicace, c'est super chouette.
Oui, après, en vrai, je pense qu'on passe plein d'artistes avec lesquels on n'est pas toujours d'accord. On peut quand même kiffer la musique. Je sais pas.
On va rester mon avis.
Voilà, et du coup, bah, pour Norman H, de la part de Kat et Lily, coucou papa, on t'aime fort. On va bientôt à l'école. Des gros bisous.
Oui. Courage pour la rentrée, tous les enfants. Enfin, en vrai, je pense qu'il y en a qui kiffent que ça soit bientôt la rentrée aussi. Oui. Mais courage quand même.
Et voilà, donc il n'y avait pas de musique associée. Donc la prochaine et dernière dédicace, elle est à la part de toute l'équipe. De 94 degrés à l'ombre pour Orman. Voilà, bah, c'était pour te dire qu'on a hâte de te revoir. Tu reviens la semaine prochaine, donc on a hâte de pouvoir reprendre la radio avec toi et puis bah, juste de te revoir. Voilà, je sais pas si les autres membres dans l'équipe ont envie de dire quelque chose.
Eh bah, ben, moi je t'ai envoyé une carte postale, je sais pas si elle va t'arriver avant que tu sortes, mais je pense. Et voilà.
Et du coup, la musique qu'on te dédicace, bon, faut que Sauterelle la retrouve. Ça va être One Thing de One Direction. Voilà, bon, j'en profite pour dédicacer à Oscar, mais surtout bah, à Orman, on a hâte de te voir. Sauterelle, tu peux me dire quand c'est bon, et puis comme ça on pourra passer la musique. Et voilà, bonne écoute.
Bonne écoute à toutes Norman, enfin Orman, enfin tous les Norman.
Ok, Rick, tu nous as envoyé un mot.
I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite. You keep making me weak, yeah, frozen and can't breathe. So one thing. So get out, get out, get out of my head. I'm falling to my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. And you got that one thing. Now I'm climbing the walls, but you don't notice at all.
Get out, get out of my head and fall into my arms instead.
So get out, get out, get out.
C'était One Thing des One Direction. Et Kali, on voulait dire qu'on avait bien reçu tes messages. Moi, ça me fait trop plaisir parce que j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Donc, je suis ravie que ça te plaise quand même. Et merci, ça fait toujours trop plaisir d'avoir tes messages à chaque fois.
Oui, on a trop hâte de te revoir. On t'embrasse fort, fort.
Et on t'envoie plein de cœurs de toutes les couleurs.
Oui, donc, voilà. Et on espère que tu vas passer un bon dimanche de lendemain de soirée.
Bah, du coup, maintenant, je vous propose qu'on passe au point contact. Voilà, si vous voulez pouvoir rentrer en contact avec nous et puis aussi un peu les adresses utiles à avoir. Donc, si vous voulez nous contacter, donc, que ce soit pour passer une dédicace, un message, demander à venir à l'émission, discuter avec nous, n'importe, vous pouvez nous écrire au 6 Cours des Alliés, Canal B, 94 degrés à Lombres, 35 000 Rennes. 6 Cours des Alliés, Canal B, 94 degrés à Lombres, 35 000 Rennes. Alors, le téléphone, si vous voulez nous appeler, c'est souvent le plus facile pour nous faire passer des messages pour des proches, mais voilà. Donc, vous pouvez nous appeler tous les dimanches entre 10h15 et 11h45. Donc, voilà, des fois, on n'est pas là très tôt, donc il faut essayer de rappeler un peu plus tard, genre à 11h30, il y a peut-être plus de chances qu'on réponde qu'à 10h. Et donc, vous pouvez nous appeler au 02 99 52 77 66 02 99 52 77 66. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse 94 donc 94 degrés à Lombres, tout attaché sans accent et tout, @protonmail.com. 94 degrés à Lombres, @protonmail.com. Et vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook. Donc pareil, c'est 94 degrés à l'ombre. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, on aura hâte d'avoir de vos nouvelles et d'échanger avec vous et puis de passer vos dédicaces si vous en avez. Autre adresse utile sinon, c'est L'Envolée. Donc c'est un journal gratuit pour les détenus qui est envoyé par courrier. Il y en a plusieurs numéros par an et c'est vraiment un chouette projet. Donc si vous voulez en avoir, vous pouvez envoyer une lettre à L'Envolée. Donc c'est L'Envolée, COFPP, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. L'Envolée, COFPP, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Donc c'est gratuit quand on est tolard-tolarde et c'est 15€ pour les abonnés qui sont pas en tôle du coup, qui sont à l'extérieur. Et ça permet de financer du coup la gratuité pour les personnes détenues.
15€ magazine, justement
L'abonnement à l'année.
Ah oui, pardon, parce que j'avais vu 2€, donc je trouvais que
oui,
ça
non,
faisait
non,
beaucoup.
C'est l'abonnement à l'année.
Ok.
Vous pouvez les contacter par mail à contact@l'envolée.net. Sinon, vous pouvez aussi essayer de vous procurer le guide du prisonnier, qui est gratuit pour les détenus, encore une fois, qui a été fait par l'Observatoire international des prisons. Donc voilà, c'est un chouette truc à avoir, je pense... quand on est tolard pour avoir les bons plans. Donc vous pouvez envoyer une lettre à l'OIP.SF, section française, 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. Voilà, l'OIP.SF, section française, 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. Et sinon, je vais vous parler rapidement de Brin de Soleil, donc, qui est une association avec des maisons d'écoute, d'information, d'hébergement, de rencontres, quand on a des proches en prison et qu'on veut venir les voir. Donc, il y en a plusieurs à Rennes. Il y a la maison Arc-en-Ciel, la maison Titom, la maison Luciole. Donc, c'est des espaces qui vous permettent de venir vous reposer, de dormir pour pas trop cher, de laver votre linge, de rencontrer des gens, etc. C'est quand vous venez voir des proches en prison... à Rennes, ça permet de se reposer à un endroit, notamment si vous n'êtes pas de Rennes, vous n'avez pas de logement là-bas. Voilà, donc vous pouvez les contacter au 07 68 16 09 53. 07 68 16 09 53 ou par mail à hébergement@brindesoleil-rennes.fr. hébergement@brindesoleil-rennes.fr. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour pour ce point contact. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer le point info et discussion un petit peu.
Cool.
Et du coup.
Le micro intro parce qu'on lance aussi le format.
On t'entend pas, je crois.
On m'entendait pas.
On t'entend mieux.
On fait une petite intro aussi pour les gens qui nous écoutent en rediffusion parce qu'en fait, vous écoutez cette émission en direct, mais vous pouvez aussi nous écouter. En rediffusé sur Spotify, YouTube, plein de choses.
Ah, peut-être qu'on peut leur dire bonjour à ces gens.
Oui.
Salut tout le monde.
Bonjour. Salut.
Est-ce que peut-être on se représente pour tous les gens qui nous écoutent en podcast?
Mm-hmm.
Bah, moi c'est Camille.
Moi c'est Elle.
Moi c'est Sauterelle.
Moi c'est Falco, un ancien détenu.
Yo yo.
Voilà.
Merci
et
à tous.
On a hâte de faire ce point info avec vous.
Allez.
On va vous parler de tout plein de choses. Voilà, donc bienvenue sur 94 degrés à l'ombre, l'émission contre toutes les prisons, tous les lieux d'enfermement.
Et contre tout, en fait.
Alors, peut-être pas à ce point, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on est pour quand même, mais voilà. Je crois que Falco voulait nous faire un point sur un maton qui s'est suicidé à la tôle de Poissy, et puis qu'on puisse un peu discuter de tout ça, voir ce qu'on en pense, relayer un peu ces infos.
Ben moi, j'ai appris qu'il y avait un maton qui s'était suicidé. Et malheureusement, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ce sera les détenus qui vont en payer les conséquences, automatiquement. Donc, quand on n'est pas apte à faire ce travail, je vois pas pourquoi on se mettrait la fin. Donc, toutes les personnes qui m'écoutent, les personnes que je connais, avec qui j'ai de très gros liens, quand j'étais en détention, protégez-vous et faites attention à vous. Restez dans votre coin et gardez votre calme. Et je pense que la personne se reconnaîtra suite à ça.
Ok, donc pour l'instant, si j'ai bien compris, on n'a pas beaucoup plus de précisions sur ce suicide. On imagine peut-être les raisons, je ne sais pas.
Un surveillant en détresse,
ouais,
qui ne sait pas gérer ses émotions.
Mais je pense qu'on peut dire qu'en vrai, dans les professions, un peu genre même chez les policiers, c'est une des tafs où il y a le plus de suicides.
Ouais.
Mais parce qu'en fait, je pense que aussi être violent avec les autres, ça finit par devenir violent pour soi aussi. Enfin, pour moi, c'est ce qui explique aussi le grand nombre de suicides. Ouais.
Et puis même, on sait bien qu'administration pénitentiaire, par essence, elle est violente. Par essence, elle reproduit de la violence. Et je pense que c'est toujours bien aussi de mentionner que c'est aussi sur les matons, même si ça sera jamais nos alliés, ça sera toujours des ennemis de classe, dans le sens où ils enferment et ils perpétuent l'enfermement. Mais c'est toujours bien de préciser, de parler aussi quand eux aussi ils meurent, quoi.
Et du coup, moi, je viens de voir sur un article qui parle de la mort de cette personne que du coup, il y a une cellule psychologique qui va être mise à disposition des personnels de l'établissement, donc de la prison de Poissy dans laquelle ils bossaient, afin de les accompagner dans ce moment particulièrement éprouvant. Et du coup, c'est intéressant de voir que c'est le genre de chose qui est mise en place quand un maton décède, mais que après toutes les morts qu'on a pu voir en tôle récemment, et puis de façon générale, on ne propose pas d'accompagnement psychologique aux personnes en tôle qui perdent des proches, en fait, entre les murs de la prison et qui savent que ça pourrait aussi leur arriver ou à d'autres proches d'elles et eux. Donc voilà le traitement à double tranchant, tout ça.
Ouais, et pour rebondir sur ce que disait Falco, je pense que... Enfin, on est d'accord pour dire que maton ou keuf, c'est des métiers qui en vrai sont difficiles et exposés à la violence. Mais je pense que dans les médias, on a tendance à dire que c'est à cause des détenus ou à cause des délinquants, entre guillemets, là où en fait c'est des métiers difficiles parce que ils travaillent pour un système qui est violent et qui les met toujours dans des conditions de pression, de confrontation à de la violence et dans aussi des positions où tu commets de la violence, et ce qui est en vrai très difficile à gérer pour un cerveau humain de voir et de faire de la violence, je pense.
Et on l'avait vu, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, où il y a eu des révoltes, ou pas des révoltes, mais en tout cas des mobilisations de matons. Et je pense que c'est toujours utile de parler du fait que bah, on écoute toujours les matons, on les plaint sur leurs conditions de travail, on autorise la grève et tout. Mais en vrai, à chaque fois, ça retombe sur les détenus. On l'avait vu pendant les mouvements de grève des matons, où les détenus, du coup, n'allaient plus en promenade, ne se douchaient plus et avaient très peu de cantine. Des fois, ils mangeaient une fois par jour, des fois, ils mangeaient pas, en fait, à cause du coup de ces matons qui se plaignaient de leurs conditions de travail. Du coup, matons qu'on écoute toujours, mais détenus qu'on n'écoute jamais. Du coup, c'est toujours bien de rappeler ça.
Je confirme, parce que je l'ai vécu en 2024.
Ok.
Suite à une évasion un peu spectaculaire. Okay. Mais ouais, c'est vrai qu'on a été privé de promenade. On avait été privé de repas. Moi-même, je me suis fait percuter par des iris dans ma cellule. Donc, je trouve pas ça correct. Donc, c'est vrai que quand il y a un surveillant qui, malheureusement, qui est mort, c'est vrai qu'on fait tout, ce qui est autour. Mais quand il y a des détenus, ben, on fait rien. On les laisse dans leur coin et vu que c'est pas de leur famille, et ben, on les laisse de côté. Et on pense pas aux familles, aux femmes, aux enfants. Et je trouve ça un peu dégueulasse, pour parler cru. Parce que le métier de maton, c'est un métier à patience. Le métier de policier, c'est un métier à patience. Le métier de juge, c'est à patience aussi. Donc si on n'a pas de patience, on doit pas faire ce métier-là.
Ouais, je partage de ouf. Et en parlant de violence sur les matons, Falco, je crois que tu voulais faire une petite dédicace à Norman H.
Oui. Norman, si tu m'écoutes, j'ai envoyé un petit message à ton fils. Donc je sais pas si tu l'as reçu. Mais voilà, j'ai fait une demande de parloir. Donc j'attends le retour, en espérant que ce soit accordé. Donc voilà, prends soin de toi et voilà, oublie pas que il y a beaucoup de monde derrière toi et surtout tiens-toi calme et n'oublie pas qu'il y a tes enfants qui pensent à toi et il y a ta femme aussi. Voilà, mon petit Norman.
Ben, merci beaucoup pour ta dédicace et ton point info.
Et du coup, je crois qu'on avait d'autres points à aborder. Je sais pas si Camille, tu veux nous introduire tout ça, nous dire de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui. Il y avait plusieurs choses.
De ouf, ouais. Moi, j'ai été voir une amie il n'y a pas longtemps qui m'a parlé des zones d'attente. Alors, je vous spoil pas trop, j'ai trouvé un podcast qu'en parlait qui est disponible sur Westrack, qui est une radio du Havre, qui est disponible du coup en podcast également. Ça s'appelle Enfermé nulle part. Un documentaire sur les zones d'attente. Du coup, on s'écoute ça tout de suite.
Ya había yo avisado a mi familia que ya había aterrizado, que ya estaba en Francia.
Il avait déjà prévenu sa famille et sa conjointe qu'il était arrivé à l'aéroport. Ensuite,
y después de eso, pues,
il a été privé de contact avec l'extérieur.
Moi, je m'appelle No ou Nausicaa Price. J'habite à Angoulême et là, on est en tournée du coup avec Antoine depuis 3 jours pour faire écouter le documentaire Enfermé nulle part, qui est un documentaire sur lequel on a travaillé pendant ces 3 dernières années.
Et moi, c'est Antoine Boujard. J'habite en Dordogne et oui, ça fait 3 ans que je travaille avec No sur ce documentaire Enfermé nulle part. Et du coup, là, on a fait une tournée en Normandie. C'est le dernier jour en Normandie et puis demain, on va en Ille-et-Vilaine en Bretagne pour diffuser à Rennes et à Fougères.
Enfermé nulle part. Un documentaire d'Antoine Boujard et Nausicaa Price.
Alors c'est un documentaire qui s'appelle Enfermé nulle part. Il dure 54 minutes et il est diffusé sur la radio-télévision suisse, donc en accès libre. Et c'est un documentaire qui parle des zones d'attente, qui sont du coup des zones d'enfermement aux frontières françaises, au niveau des aéroports, des ports et des gares internationales. Donc dans ce documentaire, nous, on a été en partenariat avec une association qui intervient dans ces lieux, qui s'appelle l'ANAFE. Donc on a enregistré des permanences de bénévoles par téléphone qui arrivent à joindre des gens enfermés dans ces zones-là pour leur donner des informations et leur donner accès à leurs droits. On a aussi joint par téléphone des gens qui étaient directement enfermés et on a mené une composition électroacoustique qui accompagne le documentaire. Ce sont un peu les 3 personnages de ce documentaire-là qu'on découvre, voilà, avec une narration qui essaie de faire comprendre un peu les logiques de cet enfermement-là et celle de l'administration française en ce qui concerne ces personnes qui cherchent à entrer en France.
Allô ? Oui, bonjour, je suis bien à la police aux frontières.
oui, Léa Rougeau de l'association ANAFE. Je vous appelle afin de savoir si vous avez des personnes maintenues en zone d'attente aujourd'hui. Non, personne. Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, bonjour madame, c'est l'ANAFE. Je vous appelle pour vous demander si vous avez des personnes maintenues en zone d'attente à Nice. Ok, merci.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Nicolas, je suis bénévole à l'ANAFE. Je vous appelais pour savoir si c'est des personnes maintenues en zone d'attente.
Je vais quand même revenir un peu sur la jeunesse, parce que ce documentaire-là, on l'a fait parce que nous, à la base, on a été militants à l'ANAFE. L'ANAFE, c'est l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Personnes Étrangères. Donc on a été militants, Noé est devenu documentariste après, moi j'étais déjà documentariste, mais quand je suis rentré dedans, je me suis dit qu'il fallait raconter ça. Mais tous les deux, on voulait pas le raconter tout seul, du coup on s'est mis à quatre mains pour pouvoir le faire mieux. L'ANAFE, c'est une association qui est basée à Paris. C'est l'association qui travaille sur les zones d'attente. Son volet principal, c'est le plaidoyer pour dénoncer ce qui se passe dans les zones d'attente. Mais pour le plaidoyer, il est nourri par des actions de terrain. Des actions de terrain qui sont de trois types. Il y a les permanences téléphoniques, donc c'est l'accès aux droits par téléphone pour les personnes qui sont placées en zone d'attente, mais aussi pour les proches des gens qui sont placés en zone d'attente, enfin pour il y a différents interlocuteurs pour les bénévoles qui font ces permanences là. Il y a les permanences en présentiel mais qui ont lieu que à Roissy, parce que Roissy c'est la grosse zone d'attente où la plupart des gens sont enfermés, donc on a fait un bureau là-bas pour faire de l'accès aux droits pour les gens qui sont à Roissy. Et le troisième volet, c'est les visites. Donc mais il y a pas que l'ANAFE qui fait ça, il y a 11 associations qui ont chacune 10 cartes de visiteurs pour des militants qui peuvent aller visiter de façon inopinée les zones d'attente. Donc là, c'est, dans ces moments-là, l'idée, c'est pas de faire l'accès aux droits pour les gens, c'est plutôt d'aller voir l'état des zones d'attente, s'entretenir avec la police aux frontières pour voir quelles sont les pratiques quotidiennes qui sont mises en place dans les zones d'attente, et aussi s'entretenir avec les gens pour voir qu'est-ce qui se passe pour eux, aussi bien évidemment leur donner des infos sur parce que souvent ils sont pas au courant de où ils sont, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui vont venir. Du coup, faire un peu l'accès aux droits des premiers secours, j'ai envie de dire. Et ensuite, c'est les permanences qui prennent le relais. Et de temps en temps, intervenir auprès de la police aux frontières quand il y a des manquements aux droits humains, type la police aux frontières qui veut pas appeler un médecin pour une personne qui souhaite voir un médecin, pour une personne qui veut demander l'asile et la police aux frontières qui fait semblant de se boucher les oreilles à ce moment-là. Quand les visiteurs arrivent, ça donne un autre poids à cette demande-là. C'est un peu les trois volets de l'action de l'ANAFE. Et c'est une association qui tient à peu de gens, hein. C'est 5 salariés. Du coup, il y a 110 visiteurs qui sont sur les différentes associations qui sont autorisées. Et les gens qui font les permanences juridiques, c'est 15 personnes maximum, quoi. Non, après, ça tourne régulièrement, mais il n'y a jamais énormément de gens dans ces endroits.
Eh ben, très bien, merci. Au revoir.
T'as appelé qui là ?
Je remonte doucement, mais okay. Sûrement. Je suis à Toulouse. Il y a sans trop de surprise, il n'y a personne jusqu'à
Toulouse.
L'ANAFE milite pour qu'il y ait des permanences d'avocats en zone d'attente et donc milite pour ne pas avoir à faire ce qu'elle fait en ce moment, c'est-à-dire de l'accès au droit, mais un peu bâclé parce que c'est par téléphone très, très souvent. Enfin, bâclé. Les bénévoles vraiment mettent tout leur cœur, mais dans des conditions qui ne sont pas du tout optimales pour donner un accès à des droits.
Bienvenue à la police aux frontières de Modane. Veuillez patienter, nous allons traiter votre appel. En cas d'urgence, bien vouloir composer le 17.
Voilà, pour dire que l'ANAFE, en fait, milite presque pour ne plus exister, pour qu'en fait, il y ait des gens qui fassent ça, et pour que les zones d'attente, en fait, ce soit un espace qui n'existe plus, comme il l'est aujourd'hui, en tout cas, qui atteint les droits des gens, en fait.
Oui, bonjour, Charlie Troncy de l'association ANAFE. Je voulais savoir si des personnes étaient maintenues en zone d'attente. 4 personnes. D'accord. Ce serait possible d'avoir leur nom, leur date d'arrivée, d'où ils viennent et leur nationalité ?
Alors, les zones d'attente, c'est surtout un concept juridique. Donc, il y en a 104 quand même, c'est quand même des lieux. Hein. Il y en a 104 en France, donc sur des zones aéroportuaires, portuaires et des gares internationales. Et ce sont des zones dans lesquelles sont enfermées des personnes qui n'ont pas droit d'entrée sur le territoire français. C'est pas le droit, enfin, c'est le droit français qui s'applique, mais pour une zone qui n'est pas le territoire français. Donc, c'est un droit particulier du code des étrangers en France. La police peut les enfermer jusqu'à 20 jours. Et il y a toute une logique juridique administrative qui se joue avec des passages devant le juge des libertés de la détention au 4e jour et au 12e jour, avec une possibilité de demander l'entrée sur le territoire au titre de l'asile pour les gens, mais c'est
pas du coup une vraie demande d'asile, c'est un peu une pré-demande, et avec des lieux physiques très différents. Donc la plus grosse zone d'attente en France, c'est celle de Roissy-Charles de Gaulle, où il y a entre 50 et 120, 130 personnes qui sont enfermées tous les jours. Et il y a des zones où il y a assez peu de personnes qui passent, mais quand même des personnes qui passent. Voilà, et ça peut être une pièce fermée à côté de la police aux frontières de l'aéroport, ça peut être une pièce, et puis les gens vont dormir le soir dans un hôtel qui est à côté, où les poignées intérieures sont enlevées, où la police garde la porte. Enfin voilà, en fait, il y a beaucoup de situations différentes. Enfin voilà, il y a des conditions différentes de détention, mais la zone d'attente, c'est avant tout En fait, les gens ont accès à la même logique, en fait, administrative.
Fue en marzo, fue el 26 de marzo, si no mal recuerdo.
Joshua a voyagé le 26 mars.
Nos conocimos en México, comenzamos una relación.
Il a connu Amandine au Mexique. Après deux ans de relation et plusieurs allers-retours d'Amandine, ils ont planifié la venue de Joshua en France.
Se me permitió abordar, ellos vieron que cumplía con todos los requisitos y llegué a Francia.
Quelques mois plus tard, il est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Dans le documentaire, à un moment donné, enfin moi ça m'a marqué, quand je l'ai entendu, c'est vraiment une personne qui s'exprime et qui dit « mais il n'y a personne qui est blanc ici, enfin il n'y a aucune personne blanche ». Et enfin, de ce qu'on comprend, c'est que c'est très arbitraire de choisir qui rentre ou qui ne rentre pas sur le territoire. Est-ce que vous, vous en savez un peu plus? Qu'est-ce qui fait qu'on ne rentre pas sur le territoire français?
Les motifs de refus d'entrée sont les garanties de représentation. Donc, pour faire très court, c'est quand il manque un papier, une assurance, un billet d'avion retour, une attestation d'hébergement ou un relevé de compte mentionnant une somme minimale que la personne devait avoir. Il y a le risque de trouble à l'ordre public. Donc là, c'est en fait tout ça, c'est aussi des. Après, les autres, c'est plutôt des catégories dans lesquelles on peut mettre des choses. Du coup, trouble à l'ordre public, il y a vraiment tout et rien qui peut être mis dedans. Du coup, c'est là que l'arbitraire se joue. L'arbitraire, il se joue sur les autres trucs de garantie de représentation parce que ces garanties de représentation ne sont toujours pas vérifiées de façon aussi stricte à chaque fois. Donc, il y a des gens qui, des fois, passent très bien et puis un jour, ils ont exactement le même papier, mais le policier fait un peu de zèle et du coup, il est placé en zone d'attente ou elle est placée en zone d'attente. Et après, pour les catégories, bah, le trouble à l'ordre public, oui, ça a été très utilisé pendant le Covid pour refuser les gens. Ce risque terroriste, cette psychose générale, enfin, c'est souvent mis en avant. Mais c'est surtout qu'en fait, quand les policiers cochent trouble à l'ordre public, ils expliquent pas aux gens ce qu'il y a derrière. Donc les gens ont l'impression d'être pris pour des terroristes, mais en fait, on n'en sait trop rien de la réalité derrière. Du coup, c'est aussi l'espèce de non-information de ce qui se joue pour ces gens-là. Mais c'est un peu complexe, parce qu'il y a plein de choses différentes. Mais tout ça, la police avance ou parle de risque migratoire. Donc c'est la force des contrôles qui sont mis en place sur les différents vols, sur les différents trains, sur les différents avions dépend de circulaires qui parlent de risques migratoires. Donc c'est profondément raciste comme façon de voir les choses.
En fait, clairement, les personnes qui sont contrôlées drastiquement comme ça, c'est pas des personnes blanches. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins des personnes blanches et c'est très 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 rare de voir une personne blanche en zone d'attente. Ce qui montre que tout le monde n'a pas les mêmes chances d'être touriste non plus, parce que il y a beaucoup 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 de gens qui viennent pour des raisons touristiques. Mais il n'empêche que la police se considère que parfois les personnes représentent quand même un risque migratoire, même si en fait elles réunissent tous les papiers au final, la police va considérer qu'elles mentent et qu'elles ont des raisons différentes d'entrer sur le territoire que ce qu'elles énoncent. Et du coup ça, en tout cas là je donne mon opinion, c'est très grave parce que ça ouvre la voie à toute légitimation d'interprétation de la part de la police aux frontières. Et ça, c'est voilà, et ça, il y a pas de barrière à ça en fait. Et à partir du moment où on est dans un espace où la police a tous les pouvoirs, où le cadre légal de protection pour les gens est très très faible, ça ouvre la voie à ce qu'on peut entendre dans le documentaire, c'est-à-dire des atteintes très très grandes aux droits humains.
La dernière raison du refus d'accès, c'est la police peut contester la véracité des documents. Donc là, c'est la police peut décider que ce document-là est faux. Après vérification, que le document soit véritablement faux ou vrai, les personnes ne sortent pas nécessairement de zone d'attente. Dans le documentaire, il y a une femme qui est rentrée parce que la police disait que son visa était faux. Il a fallu qu'elle attende 4 jours de passer devant un juge en affirmant qu'elle était enceinte et pas en mesure de rester enfermée en zone d'attente pour qu'elle soit libérée de zone d'attente. En fait, pour être libérée de zone d'attente, il faut aussi... Après, il faut montrer patte blanche devant le juge pour pouvoir prouver par A plus B que plus C plus D plus toutes les lettres de l'alphabet que les gens vont rentrer chez eux. Et les façons de vérifier de la justice sont quand même parfois violentes pour ça.
Ils nous ont dit qu'on va vous amener à l'hôtel. On est sorti, on a marché. On escorte avec des policiers comme si tu as fait un crime ou bien un délit. On a croisé même des gens des personnes qui arrivaient comme ça. J'étais débattue.
Vous parlez de justice, et on l'entend d'ailleurs dans le documentaire qu'à un moment donné, on passe devant les juges, etc. Mais c'est long, 4 jours. C'est long, 4 jours d'attente et de pas savoir ce qui se passe dans un pays où on comprend pas forcément la langue. Et que finalement, parfois, les personnes repartent sans voir le juge.
Tu pointes quelque chose d'hyper important qui est que, en fait, il y a aussi une logique d'intimidation en zone d'attente de plein de manières différentes, de par les conditions de détention, de par des méthodes d'intimidation. Je me permets d'employer ce mot parce que convoquer une personne tous les jours dans un bureau en tant que policier pour lui dire alors maintenant dis-nous vraiment ce que tu viens faire en France, c'est une logique d'intimidation. Forcer quelqu'un à faire un test PCR pour pouvoir être envoyé, c'est une forme d'intimidation. Et ça, c'est quelque chose que nous, dans nos entretiens, on a très souvent entendu, et aussi dans les permanences téléphoniques. Et du coup, souvent les personnes, en fait, ont peur et ne veulent pas rester dans cet espace-là. Donc alors qu'elles auraient tous les droits de rester en France, en fait, s'en vont avant les 4 jours et avant du coup ce 4e jour qui leur permettrait peut-être une forme de considération de leur situation. Et aussi, donc ça, c'est une des raisons qui fait que les gens ne passent pas devant un juge, c'est qu'elles souhaitent repartir avant. Mais surtout, la police, en fait, les renvoie. Parce que la police, dès qu'il y a un vol qui correspond à la provenance directe de la personne, en fait, elle essaie de renvoyer la personne par ce moyen-là, quoi. Du coup, tout ça fait qu'au final, c'est très très long, 4 jours, mais les personnes, ne restent souvent pas cette durée-là, quoi.
Il y a l'ANAFE qui a fait un gros travail il y a 1 ou 2 ans, qui a fait un recours au Conseil constitutionnel pour pouvoir avancer ce délai à 2 jours, et ça a été rejeté. Donc, voilà, on est toujours sur 4 jours avant de voir le juge. Hello, do you speak French?
No, Sudanese, no.
Okay, you speak English?
No.
No. Somebody speak English around you? Or French?
Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, citoyennes, en plus que s'informer?
Il y a plein de choses à faire. Les zones d'attente, c'est très méconnu. Donc, si des gens ont connaissance de ça, en parler autour d'eux. Si des gens écoutent le doc, en parler autour d'eux. Sans forcément faire écouter le doc, parler de ce qu'ils ont entendu autour d'eux. Après, l'ANAFE cherche souvent des bénévoles. Donc, s'il y a des gens à Paris ou des gens en province pour faire de la visite de zones d'attente, plutôt, peuvent contacter l'ANAFE, faire des dons à l'ANAFE ou faire des dons à d'autres associations. Ça s'inscrit dans une logique plus large. Il y a plein d'associations qui travaillent sur les droits des étrangers qui méritent d'être soutenues. Et il y a aussi, quand on voyage dans un avion et qu'on voit des policiers venir placer quelqu'un dans un avion, il y a la possibilité de faire du grabuge pour que l'avion ne parte pas avec cette personne et que le pilote demande à ce que la personne sorte. Donc, se dire que quelqu'un qui arrive entre les mains de la police qui est placé dans un avion, c'est pas normal et que ça ne doit pas exister et le signifier, c'est quelque chose que les gens peuvent faire.
Et j'avais jamais pensé à ça, mais je pense que quelque chose qui m'a, moi, beaucoup marqué dans notre tournage avec Antoine, c'est le passage devant le juge. Et ce qui est marquant, c'est qu'il y a personne, à part les membres de famille, des gens ou les administrateurs et administratrices ad hoc pour les mineurs isolés qui sont en zone d'attente. En fait, il y a absolument personne qui va voir ce qui se passe, alors qu'il y a un droit de regard citoyen et citoyenne, enfin pour les citoyens et citoyennes sur ce qui se passe. Et moi, je dirais que c'est quand même une forme d'action que d'aller voir ce qui se passe et en n'étant pas membre de l'ANAF, et que en fait ce droit de regard qui normalement il y a dans tous les tribunaux, en tout cas de grandes instances comme celui de Bobigny, en fait ça, ce droit de regard il peut difficilement être exercé à Roissy, dans la zone d'attente de Roissy par exemple, parce que en fait c'est une annexe du tribunal de Bobigny qui est placée là-bas, et c'est vraiment un droit en fait les associations ont beaucoup milité contre ça. Parce que ça crée une invisibilisation encore plus importante des gens. Donc même si c'est compliqué d'accéder aux zones d'attente, ça peut aussi être une forme d'action que d'aller juste assister à un jugement et que la police voit que en fait c'est su de la part des citoyens qu'il y a des gens qui sont là, qui sont jugés dans telles conditions. Moi, je trouverais ça important, et je vais pas être trop long, mais en fait, ce documentaire, on l'a aussi fait parce que pour nous, ça reflète une logique de la politique migratoire française, en fait. Et c'est aussi se questionner sur en fait, qu'est-ce que l'État cherche à faire de ces gens et quelle est la logique derrière tout ça. Juste en fait se questionner là-dessus, et si des gens ne sont pas questionnés là-dessus, peut-être que effectivement la zone d'attente est un cas assez emblématique de cette politique crue, en fait. S'il n'y a pas de garde-fou à cette politique-là et à cette logique-là, qu'est-ce qui se passe? Quelles atteintes aux droits il se passe? Et est-ce que vraiment on veut ça? Et je pense que si juste se questionner là-dessus, je pense que c'est pas mal, ne serait-ce que pour des logiques d'action dans d'autres domaines en France avec des personnes qui sont sur le territoire ou quoi.
Vous avez régler vos affaires, là? Le plus de temps je passe sous le contrôle policier, le plus mon opinion change. Petit à petit, je commence à voir comment le rapport de force se présente avec... voilà. En fait, on veut pas que tu sors d'ici.
Comment on crée une narration sur quelque chose qui est fait de beaucoup de témoignages et sur quelque chose d'extrêmement vivant, sur parfois 4 jours, parfois beaucoup de témoignages.
Des fois, nous-mêmes, on se demande un peu comment on en est arrivé là. Hein. Enfin, en tout cas, moi, des fois, quand je vois la session de montage, je me dis, waouh, c'est quand même... C'est un documentaire qui est fait de beaucoup de petits morceaux qui sont agglomérés les uns aux autres pour raconter une histoire qui est un peu plus grande. Et du coup, ça a été un long travail. On avait beaucoup de rush d'écouter, retranscrire, réécouter, discuter. Parce qu'on est deux, donc il y avait ce truc de pas imaginer les choses chacun de notre côté, mais les imaginer ensemble. Et du coup, ce travail de dérochage, d'écoute et de voir qu'est-ce qu'il y a dans les mots, qu'est-ce qu'il y a dans la force du son, au-delà des mots, de la situation, tout ça. Ça a été un travail de base qui a permis de mettre les fondations pour construire le projet commun. Après, comment on construit une narration avec tout ça, on avait tout de suite envie qu'il y ait l'ANAFE et les permanences téléphoniques qui soient là. En fait, le documentaire est une espèce de tentative de communication entre l'intérieur et l'extérieur constant. Et du coup, c'était ça l'idée de base, c'est de maintenir une tension autour de ce fil qui est de téléphone, qui est le seul moyen de communiquer pour rentrer à l'intérieur ou pour essayer de sortir de là. Et du coup, il y a les gens qui sont enfermés, qu'on a eu au téléphone, et du coup, il y a pas mal de voix différentes qui sont pas nommées de ça, mais il y a quelques voix récurrentes qui permettent de lier un peu tout ce propos-là. Il y a les permanences juridiques par téléphone qui posent des questions et en même temps qui répondent à des questions et qui permettent de structurer et de reposer l'oreille aussi, parce que l'écoute de voix téléphoniques est un peu fatigante, donc c'est des moments où aussi l'oreille peut un peu se reposer pour pouvoir être prête à re-rentrer dans des moments d'écoute un peu plus intense et un peu plus dur. Voilà, après ça a été un travail d'expérimentation, on a essayé, on a pris le temps, c'est ça.
Oui, et en fait pour penser à l'espèce de crescendo global, on l'a quand même pensé du point de vue des gens en fait, et de l'ANAFE derrière qui commence à dire, bah, en fait vous êtes en zone d'attente, c'est pas en France, voilà, tout ce discours-là, et petit à petit en fait aller vers la logique de nous, ce qu'on a appelé en fait un peu le renvoi à tout prix, qui était de dire, bah, en fait, ok, il y a des moyens d'action, mais en fait au final la logique reste le renvoi et pas le respect des droits des gens et pas le fait de les faire libérer en fait, et que ça c'est très difficile. Et du coup petit à petit on a aussi fait rentrer le personnage de la zone d'attente que nous on avait pensé comme étant la composition électroacoustique qu'on entend un tout petit peu au début et qui petit à petit prend de plus en plus de place, et ça pour nous c'était important c'est une manière aussi d'exprimer notre point de vue en fait. Pour nous c'est ça la zone d'attente, et elle représente un système, et même si ça paraît un peu gros et peut-être un peu trop militant, j'en sais rien, en tout cas c'était cette espèce de machine derrière avec des sondes d'avion, de téléphones compliqués, de voilà, qui en fait prend de plus en plus de place et un peu englouti les gens. En fait, c'est un grand crescendo avec à l'intérieur quand même 4 parties pour nous qui nous ont aidé à construire quoi. Notamment, il y a une partie centrale qui pour nous fait un peu pivot, qui est le passage devant le juge, qui est en fait l'espoir qu'on donne aux gens de pouvoir être libérés, mais qui en fait s'avère être un passage compliqué, un peu incompréhensible pour les gens et qui amène à très peu de libération. Voilà un peu comme on l'a pensé.
Pourquoi c'est important de garder une trace des voix ?
En fait, dans la voix, il y a les émotions des gens et il y a leur vécu, et en tout cas, avec notre médium de travail, notre médium radiophonique, on trouve ça très important d'avoir des témoignages directs. Et on se sentait pas, même si ça a été compliqué parfois en termes de qualité sonore, d'enregistrement, en fait, on trouvait que ça signifiait quelque chose et que parfois, le médium qui nous sert à communiquer avec les gens, il est hyper significatif. Et juste faire entendre des voix de gens directement enfermés, pour nous, ça avait beaucoup de poids, beaucoup de sens, plutôt que de parler au passé de gens qu'on a eu au téléphone. Et voilà, en fait, donner une présence aux gens avec leur propre voix, quelle que soit la qualité avec laquelle on a pu l'enregistrer, c'était super important. Et surtout, les gens étaient d'accord pour le faire, donc parfois, il y avait aussi une envie de témoigner qu'on a envie de respecter, en fait, aussi.
C'est des gens qu'on n'entend jamais, du coup, c'est... Enfin, nous, quand au départ, on avait vraiment peur que de pas réussir à avoir de la voix des gens de l'intérieur. Et du coup, quand on a compris qu'on allait pouvoir le faire, on était content, quoi. En fait, on s'est dit que là, le documentaire, il allait pouvoir exister dans sa pleine force, et de rendre hommage aussi à toutes ces luttes. Enfin, c'est clairement des gens qui sont en lutte, les gens qui sont à l'intérieur pour pouvoir sortir et se donner à entendre ça. C'est absolument nécessaire, quoi.
Et moi, je pense que c'est très important de rencontrer directement des gens qui n'ont pas des situations qui sont comme les nôtres. Et je trouve que le son et le témoignage direct, c'est une manière de rencontrer aussi. Et d'être un tout petit peu avec les gens. Et pour moi, ça a beaucoup de force de faire ça. Pour moi, ça crée de la rencontre, en fait, d'une certaine manière. Et je pense que c'est pour ça que j'aime faire de la radio aussi.
Allô ? Vous êtes partie vomir ? Comment ça se fait qu'ils vous ont brutalisé ? Comment ça s'est passé ?
Le documentaire, il est en ligne sur le site de la Radio Nationale Suisse. Il suffit de taper Enfermé Nulle Part. Il est en podcast. Il faut pas hésiter à le partager, enfin, le télécharger, l'écouter, le partager. Et puis nous, on aime bien le diffuser aussi en séance d'écoute publique. Du coup, c'est un moment où on écoute tous ensemble. Et après, on discute de ce qu'on a entendu parce que c'est un documentaire qui explique pas tout. Donc c'est aussi bien de, derrière, pouvoir collectivement en discuter. Et pour nous contacter, dis aux gens de contacter Pieds Nus qui nous ont accueillis ici ce soir. Que Pieds Nus pourra les rediriger vers nous.
Et je pense aussi que pour des diffusions, si c'est plus simple, on peut contacter l'ANAFE aussi et dire on aimerait bien organiser une diffusion chez nous et l'ANAFE saura très bien voilà, vous rediriger vers nous, en tout cas pour organiser ça.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je me permets de vous appeler. C'était déjà pour savoir comment vous alliez. Ça va ?
Ok, merci pour ce documentaire. Est-ce que peut-être on peut redire qui est-ce qui a fait ça ?
Ouais, j'ai entendu qu'il le disait à la fin et qu'il parlait de faire des rediffusions publiques. Mais du coup, c'est un truc qui a été fait en partenariat avec l'association Pieds Nus. Et donc c'est un documentaire des réalisateurs et réalisatrices Nausicaa Price et Antoine Boujard en partenariat avec l'ANAFE. Et donc il faut taper « Enfermé nulle part » et vous allez le trouver. Et bon, du coup, là, nous, on n'a pas trop le temps d'en rediscuter plus parce qu'on a une suite de programmes. Mais en vrai, si ça vous intéresse, ça a l'air d'être possible de faire des rediffusions publiques, d'inviter les gens et tout pour en parler. Donc, ouais. Voilà.
Et toujours, moi, juste en deux mots, je trouve ça quand même fou que des frontières existent encore et que juste sous prétexte qu'on a des papiers ou on n'en a pas, ou alors de notre ethnie et de à quel point on est racisé, on peut passer une frontière ou non. En Europe, bah en tout cas en Union Européenne, on a de la chance d'avoir l'espace Schengen et c'est cool de militer pour que cet espace s'y grandisse jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de frontières quoi. Voilà. Et moi je voulais faire un lien justement avec les CRA, donc les centres de rétention administrative, qui sont un peu on va dire un peu similaires à des zones d'attente où c'est des... on ne dit pas que tu es en détention, on dit que tu es en rétention parce que pareil administrativement t'as pas les bons papiers ou alors t'es sous OQTF. Il y a plusieurs raisons d'être en CRA. Et ben justement, il y a des associations qui militent à l'intérieur des CRA, comme la CIMAD, l'ASFAM ou France Terre d'Asile. Et j'ai un article pour de critique, alors ça c'est plus à titre personnel que je voulais faire ça, de critique de ces associations-là. Donc ça s'appelle, c'est à retrouver sur Indie Media, ça s'appelle « Grosse semaine pour les assos qui font leur business sur les CRA ». Ces derniers jours, les sièges de la CIMAD, de l'ASFAM, groupe SOS, et de France Terre d'Asile, tous situés à Paris, ont été joliment redécorés. Leurs devantures ont été taguées et des affiches y ont été collées. On pouvait lire « L'État enferme, la CIMAD collabore, ASFAM complice, feu au CRA » ou encore « Ni à Olivet, ni ailleurs, non à la collaboration dans les CRA ». Ces trois assos, comme Forum Réfugiés et Solidarité Mayotte, sont payés par l'État pour intervenir en centre de rétention administrative, CRA, auprès des retenus. Elles collaborent ainsi à la politique raciste du gouvernement. Elles méritaient donc, comme toutes les boîtes qui se font de la thune sur l'enfermement, une petite visite. Une visite d'autant plus méritée qu'en 2024, l'État renouvelle son appel d'offres pour les associations en CRA. Lors de la dernière session en 2020, elles s'étaient partagées près de 24 millions d'euros. Ces assos ont donc le choix. Soit elles continuent à servir de caution humanitaire dans les CRA, soit elles cessent d'y intervenir. Après avoir critiqué et manifesté contre Gérald Darmanin, vont-elles renoncer à travailler pour ce qui est le réel objectif de ce texte ? Enfermer et expulser toujours plus de personnes étrangères. où finalement des millions d'euros versés par l'État pour leur mission, entre guillemets, vont-ils suffire à leur faire fermer leur gueule et continuer comme si de rien n'était ? La réponse est facile à deviner. Nul doute que les assos ne manqueront pas d'arguments du type « on sert à aider les personnes enfermées ». Si ce n'est pas nous, ce sera une autre asso. Tout ça pour s'auto-persuader que ce ne sont pas des charognards qui se paient sur le dos des retenus. Pour la seule année 2024, les 5 associations en CRA vont se partager quelques 10 millions d'euros. Pour cette somme, que font-elles ? Elles servent à apporter une aide juridique et administrative aux retenus, en leur expliquant leurs « droits », entre guillemets, en faisant quelques demandes de mise en liberté, ou en les aidant parfois à faire appel contre les décisions prises par un juge de liberté de la détention. Bref, elles ne servent pas à grand-chose. Et on les entend jamais, ou presque, pour dénoncer les violences policières. Tabassage, mise à l'isolement, racisme et médical, refus de soins, cachetonnage, qui ont lieu tous les jours dans les centres de rétention. Les assos en CRA ? C'est la CIMAD qui, en 2023, a exercé son droit de retrait au CRA du Ménil-Amelot en raison de l'aggravation des conditions de rétention et des expulsions illégales, mais qui, au bout de 2 mois, a bien sagement réintégré le centre. C'est la SFAM qui, au CRA de Vincennes, a tenté de cacher la mort de M en mai 2023, après qu'il ait été tabassé par des flics. C'est aussi la SFAM qui attend 15 jours en septembre pour évoquer la mort d'un autre retenu et ne juge pas bon d'informer les autres prisonniers et prisonnières. Un communiqué signé par une 60aine de prisonniers dénonçait encore il y a quelques semaines le rogue de l'association. ASFAM complice, je cite. C'est France Terre d'Asile qu'on n'entend pas alors qu'au CRA de plaisir, les retenus racontent que les personnes enfermées, gravement malades, sont privées de soins et qui a gagné le droit de collaborer au CRA tout neuf de Ogivet. Un des dix nouveaux, annoncés par l'État. Le mieux, c'est de demander aux premiers intéressés ce qu'ils et elles pensent de ces assos. Je cite. « Quand tu demandes un truc à l'ASFAM, ils te répondent pas, ils te prennent pour un débile. » Deuxième citation. « L'ASFAM, ils sont trop bizarres. Ils disent qu'ils sont là pour toi, ils peuvent t'aider, mais en fait, ils font rien. Ils servent à rien. L'autre jour, je leur ai demandé de téléphoner à mon assistante sociale et à l'association où j'étais hébergé avant d'arriver en CRA. Ils ont refusé. Nous, on pense qu'ils sont là pour nous piéger. » Et dernier témoignage. L'ASFAM, ils ne sont pas avec nous. Ils sont du côté de la police. Donc en parlant des violences policières et du fait que ce n'est pas possible de demander de l'aide à l'ASFAM. Ah non, il y a une quatrième citation. La CIMAD, on dirait qu'ils ont peur de la police. Quand ils m'ont demandé la feuille pour la plainte, ils m'ont dit « Dis à personne que tu vas faire un certificat pour porter plainte contre la police. » Donc en conclusion de cet article, on a, de par leur présence, les associations cautionnent l'enfermement et collaborent à la politique raciste de l'État français. Tout ça pour quelques millions d'euros. À bas l'enfermement et ceux qui en profitent, feu au CRA. Donc voilà. Je sais pas si ça vous parle. Moi je trouvais ça vraiment intéressant parce que dans les milieux anticarcéraux, des fois on parle justement de la CIMAD. Et je trouvais ça intéressant d'avoir une critique de ces associations. Il n'y a pas que CIMAD d'ailleurs.
Ouais, ben moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir les critiques. Après moi j'avoue que je suis... J'étais grave méfiante vis-à-vis de cet article parce que je pense que des fois je suis un peu énervée par les gens qui ont juste une posture de vouloir être contre tout et de surtout pas vouloir se salir. Et du coup, bah, à finalement plus avoir d'issue pour agir concrètement et massivement. Et pour moi, des avantages de ce genre d'asso, c'est qu'en fait, bah oui, elles collaborent, mais du coup, elles peuvent entrer à l'intérieur. Et ce qui me semble être quand même une qualité. Mais en fait, j'ai l'impression aussi que les critiques, elles sont pas les mêmes, genre envers la CIMAD et envers ASFAM.
Ouais,
ASFAM. En vrai, je connais pas du tout, donc je saurais pas dire. Mais moi, j'avoue que je serais réticente à genre dire que c'est tous des collabos de la même façon et que tout est à jeter.
Oui, c'est nuancé.
Je pense qu'il y a aussi des fois qu'il n'y a pas forcément des mauvaises intentions, mais qu'en fait, oui, de fait, bah, ils existent parce qu'ils reçoivent de la thune de l'État et ils peuvent continuer à aller dans les CRA parce que bah, ils font pas trop de bruit. Et je pense que c'est hyper dur, voire impossible, de trouver un équilibre entre genre se rendre utile concrètement dans le quotidien aux gens et aussi bah, juste servir à perpétuer un système et à le rendre plus acceptable. Enfin ouais, moi j'ai pas assez réfléchi à la question, donc je saurais pas trop en dire plus. Mais en vrai, ça pourrait être intéressant aussi, par exemple, tu vois, genre je pense qu'à la CIMAD, c'est beaucoup des bénévoles. Je crois que même Stéphane, qu'on avait reçu, il a été bénévole à la CIMAD. genre d'avoir son avis là-dessus et tout, sur ce qui lui semble possible ou pas de faire à l'intérieur.
Ouais, de ouf. J'ai l'impression que ça revient, c'est un débat qui est hyper prenant dans beaucoup de militants et tout, en mode, t'as les militants qui sont pro-associatifs, il y a ceux qui sont 100% autonomes et qui sont contre les associations. On pourra faire une émission là-dessus, mais c'est intéressant de savoir que nous, on est une radio qui existe depuis, je crois, 20-25 ans. Et il y avait tout un communiqué qui avait été écrit par les gens du Génépi, du coup, qui avaient commencé cette radio, pour dire pourquoi ils dissolvaient le Génépi et pourquoi pour eux, c'était plus assez radical. Et pourquoi ils pensaient qu'il n'y avait aucun avenir, dans le sens où bah, l'État, s'ils enlèvent les subventions, ils n'existent plus. Quoi.
Peut-être on peut préciser, c'est quoi le Génépi ?
C'était une association d'étudiants qui est née dans les années 70, je crois. Du coup, plutôt d'étudiants blancs et bourgeois qui allaient dans les prisons pour faire du soutien aux détenus, apprendre des trucs, donner des cours et tout. Mais globalement, du coup, la critique la plus prenante, c'était que ces gens n'avaient pas forcément de qualité d'enseignement et arrivait en mode on va vous apprendre, on va vous sauver. Et du coup, qui crée une posture asymétrique quoi, avec les détenus.
Est-ce que, Falco, peut-être toi, t'as un peu vu genre, des assos dans les prisons, genre, je sais pas, toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça, des assos de soutien en détenus
Moi, concernant les centres de rétention, je connais pas trop. Donc je pourrais pas dire mon avis au niveau de ça parce que ce serait mentir, voilà. Mais c'est vrai que en détention j'ai connu des associations qui ont dû arrêter par un manque de financement. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu dégueulasse en fait. Je parle plus par rapport aux pères de famille, enjeux d'enfants, tout ça. Donc c'est des associations qui étaient là pour les pères.
Ouais.
Pour maintenir des liens avec leur enfant. Et malheureusement, ils ont fermé.
Ah ouais. Et est-ce que toi, tu dirais qu'il y a vous arriviez à avoir un lien de confiance un peu avec genre, les gens extérieurs qui venaient ? Ou est-ce qu'il y a toujours un peu de la méfiance qui reste de est-ce que ce que je peux leur dire va être retourné contre moi ? Est-ce que. Ou pas du tout ? Ou genre ça se passe bien ? Justement, ça permet aussi d'avoir un contact avec l'extérieur, quoi.
Alors déjà le mot confiance chez moi c'est très compliqué donc je dirais que voilà, même que ce soit des personnes de l'extérieur, on a jamais totalement confiance en eux parce que on peut dire tout et n'importe quoi, ça peut se retomber sur nous à tout moment, que ce soit des bénévoles ou non. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours dit aux détenus voilà, il faut garder son sa distance, en fait. On est détenu, il y a des bénévoles, mais il faut mettre une barrière entre les deux.
Ouais, je capte. Est-ce que ça serait pas le bon moment, Sauterelle, je crois que tu prévoyais de nous lire un livre.
Une petite lecture. Si personne n'a rien d'autre à dire pour cette émission. Du coup, moi, je voulais juste vous lire un livre que j'aime bien, qui n'a pas tant de rapport avec l'enfermement, même si en vrai, ça parle de violences policières et de répression. Donc, ça s'appelle Stone Butch Blues, c'est de Leslie Feinberg, et ça a été écrit, je pense, dans les années 90, et le livre, il se passe genre des années 70 à 90 aux États-Unis. Et je ne veux pas trop vous en dire, mais en mode, ça parle de la vie d'une lesbienne masculine. Du coup, c'est ça ce que ça veut dire, Butch. Butch, c'est les lesbiennes masculines. De base, c'est une insulte, mais ça a été récupéré. Ça parle du travail en usine aussi, ça parle de syndicalisme, ça parle de lutte, et surtout, genre, je pense que ça peut parler à tout le monde, parce que ça parle vraiment genre, hyper bien d'amour et d'amitié. Du coup, c'est surtout pour ça que je voulais le lire, c'est la petite lecture de l'été. Et donc, si vous voulez le retrouver, en fait, il est en accès libre sur Internet, genre c'est gratuit et tout, et sinon ça s'achète à prix coûtant de l'impression en librairie.
On redira le nom à la fin si vous êtes intéressé.
Oui, on redira tout.
Et du coup, tu voulais nous lire le premier chapitre, c'est ça ?
Ouais, je vais vous lire le premier chapitre et si ça vous plaît, on fera la suite peut-être d'autres fois. On verra.
Trop chouette. Et peut-être rappeler que du coup, il y a beaucoup de violence dans ce livre. Du coup, genre, c'est vraiment trop chouette. Mais si jamais il y a certains sujets qui peuvent vous être mal à l'aise, n'hésitez pas à, je sais pas, peut-être couper à ce moment-là, etc. Je sais plus de quoi le premier chapitre fait mention, mais ça parle des fois de violence policière. De violences sexistes et sexuelles, d'agressions, Voilà, donc juste comme ça, vous êtes au courant avant d'écouter. Mais sinon, c'est vraiment un super livre et je vous encourage vraiment à écouter cette lecture ou alors à aller lire le livre vous-même.
Eh ben, je commence. Chère Teresa, je suis allongée sur mon lit ce soir et tu me manques. J'ai les yeux tout gonflés. Des larmes chaudes coulent sur mon village. Un violent orage éclate dehors, illuminé d'éclairs. Ce soir, j'ai marché dans les rues. Je te cherchais dans chaque visage de femme, comme je l'ai fait chaque nuit de cet exil solitaire. J'ai peur de ne plus jamais voir tes yeux rieurs et moqueurs. Tout à l'heure, j'ai pris un café à Greenwich Village avec une femme. Une amie commune nous a mis en contact, convaincue que nous aurions beaucoup à partager, puisque nous faisons toutes les deux de la politique. Eh bien, on a été au café et elle a causé de la politique démocrate, de colloques, de photos, de ses problèmes avec sa coopérative et de son opposition au plafonnement des loyers. Pas étonnant, papa est un grand promoteur immobilier. Pendant qu'elle parlait, je la regardais en me disant que j'étais une étrangère dans ses yeux de femme. Elle me regardait mais ne me voyait pas. Puis, elle a fini par me dire combien elle haïssait cette société pour ce qu'elle faisait aux femmes comme moi, qui se détestaient tellement qu'elles se sentent obligées de ressembler à des mecs et de se comporter comme eux. Je me suis sentie rougir, mon visage s'est un peu crispé et j'ai commencé à lui répondre, très calme et tranquille, que des femmes comme moi existaient depuis la nuit des temps, bien avant d'être opprimées. Puis je lui ai raconté comment les sociétés les respectaient. Alors, elle se donnait un air très intéressé, et puis il était temps d'y aller. On a marché jusqu'au coin de la rue, où des flics emmerdaient un sans-abri. Je me suis arrêtée et j'ai commencé à ouvrir ma gueule. Ils sont venus vers moi, avec les matraques sorties, et elle m'a attrapée par la ceinture pour me tirer en arrière. Je l'ai juste regardée, puis d'un coup, j'ai senti ressurgir en moi des choses que je pensais avoir enterrées. Je suis restée plantée là, à me souvenir de toi, comme si je ne voyais pas les flics sur le point de me frapper. Comme si je me retrouvais dans un autre monde, un endroit où j'avais envie de retourner. Et d'un coup, mon cœur m'a fait si mal que j'ai réalisé que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti quoi que ce soit. J'ai besoin de rentrer chez nous ce soir, Teresa. Je ne peux pas. Alors je t'écris cette lettre. Je me rappelle ce jour, il y a des années de cela, quand j'ai commencé à bosser à la conserverie de Buffalo où tu travaillais depuis quelques mois. Et je me rappelle la manière dont tes yeux ont attrapé les miens et ont joué avec moi avant de me laisser partir. J'étais censée suivre le contremaître pour remplir des papiers, mais j'étais trop occupée à me demander de quelle couleur étaient tes cheveux sous le bonnet de papier blanc et comment ça serait de les sentir sous mes doigts, une fois défait et libre. Et je me rappelle ton petit rire lorsque le contremaître est venu et a dit « Hé, tu viens ou pas ?» Nous toutes, les ill-elles, les femmes masculines de l'usine, on était folles de rage quand on a appris que tu avais été évirée parce que tu n'avais pas laissé le chef du personnel te tripoter les seins. J'ai continué à faire le déchargement dans les hangars pendant quelques jours, mais j'étais un peu maussade. Plus rien n'était pareil une fois que ta lumière était partie. Le soir où je suis allée dans cette nouvelle boîte dans le West Side, je n'ai pas réussi à y croire. Tu étais là, appuyée contre le bar, ton jean trop moulant pour le dire avec des mots, et tes cheveux. Défait et libre. Je me souviens encore de ton regard. Tu me connaissais à peine. Tu appréciais ce que tu voyais. Et cette fois-ci, ma belle, on était sur notre terrain. Je pouvais bouger comme tu l'aimais et j'étais bien contente d'être sur mon 31. Sur notre terrain. Tu danses avec moi ? Tu n'as dit ni oui ni non. Tu m'as simplement taquiné d'un regard. Tu as resserré ma cravate, caressé mon col de chemise et tu m'as pris par la main. Tu avais déjà mon cœur avant même de bouger contre moi quand tu l'as fait. Tammy chantait Stand By Your Man et on remplaçait tous ces ills par des ailes dans notre tête pour que ça colle. Après cette danse, tu avais bien plus que mon cœur. Tu me rendais dingue et tu aimais ça. Et moi aussi. Les vieilles Butch m'avaient mise en garde. Si tu veux préserver ton couple, ne va pas dans les bars. Moi, j'ai toujours été une Butch monogame. Et puis c'était notre communauté, la seule à laquelle on appartenait. Alors on y allait tous les week-ends. Il y avait deux sortes de bagarres dans les bars. La plupart des week-ends, c'était l'une ou l'autre. Certains week-ends, c'était les deux. Il y avait les bastons entre Butch, pleines d'alcool, de honte et de jalousie angoissée. Des fois, c'était vraiment affreux, et ça s'étendait comme une toile pour piéger tout le monde dans le bar, comme le soir où Eddie a perdu un œil parce que quelqu'un l'avait frappé au niveau de la tête avec un tabouret de bar. Je suis vraiment fière de n'avoir jamais frappé une autre Butch au cours de toutes ces années. Tu vois, je les aimais, elles aussi. Et je comprenais leur douleur et leur honte parce que j'étais comme elles. J'aimais les rides qui creusaient leur visage et leurs mains, et la courbure de leurs épaules usées par le travail. Des fois, Je me regardais dans le miroir et j'essayais d'imaginer comment je serais à leur âge. Maintenant, je sais. À leur manière, elles m'aimaient aussi. Elles me protégeaient parce qu'elles savaient que je n'étais pas une butch du samedi soir. Ce genre de butch avait peur de moi parce que j'étais une Hillel Stone. Si seulement elles avaient su comme je me sentais impuissante à l'intérieur. Mais les vieilles butch, elles, connaissaient tout le chemin que j'avais à parcourir et elles auraient souhaité que je n'aie pas à emprunter parce qu'il fait trop mal. Quand je suis entrée dans le bar en drag king, un peu voûtée, elles m'ont dit « Sois fière de ce que tu es ». Et elles ont réajusté ma cravate, un peu comme tu l'as fait. J'étais comme elles. Elles savaient que je n'avais pas le choix. Alors, je ne me suis jamais bastonnée avec elles. On se donnait des grandes tapes dans le dos au bar et on surveillait nos arrières les unes les autres à l'usine. Mais ensuite est venu le temps où nos vrais ennemis sont arrivés, à nos portes. Horde ivre de marins, brutes dans le style Ku Klux Klan, psychopathes et flics. On savait toujours quand ils entraient parce que quelqu'un pensait à arracher la prise du jukebox. Peu importe combien de fois ça arrivait, on faisait tout un petit « oh » quand la musique s'arrêtait. Et seulement ensuite, on réalisait qu'il fallait relever nos manches. Quand les réacs s'amenaient, c'était le moment de se battre, et on se battait. On se battait, dur, femme, butch, femme et homme, ensemble. Si la musique s'arrêtait et que dehors c'était les flics, quelqu'un leur remettait et on échangeait nos partenaires de danse. Nous, dans nos costumes cravates, on se mettait par deux avec nos sœurs drag queen, en robe et talons. Dur de se souvenir qu'à l'époque c'était illégal pour deux femmes ou deux hommes de danser ensemble. Quand la musique finissait par être coupée, les butches s'inclinaient. Nos partenaires femmes faisaient la révérence et on retournait à nos sièges, à nos amantes et à nos boissons, avant d'être fixés sur notre sort. C'est là que je me souviens de ta main sur ma ceinture, sous ma veste de costume. C'est là qu'est restée ta main tant que les flics étaient là. Tu roucoulais à mon oreille. « Laisse tomber, chérie. Reste avec moi, bébé. Tranquille. » Comme une chanson d'amour spéciale répétée aux guerriers qui doivent, pour leur survie, apprendre à choisir quelle bataille mener. On a vite compris que les flics mettaient toujours leur camion juste devant la porte du bar et y laissaient les chiens menaçants pour nous empêcher de sortir. Ok, on était prise au piège. Tu te rappelles de cette soirée où tu es restée avec moi à la maison quand j'étais tellement malade? Cette soirée-là, tu t'en souviens, je pense. Les flics avaient embarqué la plus stone des butch pour la détruire en l'humiliant. C'était une femme dont tout le monde disait qu'elle gardait son impair sous la douche. On a entendu dire qu'ils l'avaient déshabillée, lentement devant tout le monde, et qu'ils avaient ri d'elle alors qu'elle essayait de cacher sa nudité. Après, elle est devenue folle, ils ont dit. Plus tard, elle s'est pendue. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été présente ce soir-là? Je me souviens des descentes dans les bars au Canada. Parquaient dans les camions de police toutes les butches du samedi soir et essayaient de faire gonfler leurs cheveux et d'échanger leurs vêtements avec des petits rires nerveux pour être mises dans le même camion que les femmes. À croire que c'était le paradis. La loi disait qu'on devait porter au moins 3 vêtements féminins. Nous n'avons jamais changé de vêtements, pas plus que nos compagnes drag queens. On savait, et toi aussi, ce qui allait arriver. Pour pouvoir survivre à ça, on avait besoin de garder nos manches retroussées et nos cheveux ramenés en arrière. On avait les mains menottées dans le dos. Tu les avais menottés devant. Tu défaisais ma cravate, déboutonnais mon col et touchais mon visage. Je voyais sur le tien la douleur et la peur pour moi, et je te chuchotais que tout allait bien se passer. On savait que ce n'était pas vrai. Je ne t'ai jamais dit ce qu'ils nous faisaient une fois en bas. Les trappes dans une cellule, les stone butch dans une autre, mais tu le savais. Un à la fois, ils traînaient nos frères hors des cellules. Ils les giflaient et les frappaient, refermaient rapidement les barreaux derrière eux au cas où on aurait pété les plombs et essayé de les arrêter. Comme si on le pouvait. Il menottait le poignet d'un frère à sa cheville, où il l'enchaînait le visage contre les barreaux. Il nous faisait regarder. Parfois on croisait le regard de la victime terrorisée ou de celle qui allait suivre, prise dans l'angoisse de la torture, et on disait doucement « Je suis avec toi mon chou, regarde-moi, ça va aller, on va te ramener chez toi. » On ne pleurait jamais devant les flics, on savait qu'on était les suivantes. La prochaine fois que la porte s'ouvrirait, ce serait moi que les flics allaient traîner dehors et attacher, bras et jambes écartés sur les barreaux. Est-ce que j'ai survécu? Je pense que oui. Mais seulement parce que je savais que j'allais pouvoir te retrouver à la maison. Ils finissaient par nous relâcher, un par un, le lundi matin, sans poursuite. Trop tard pour appeler le boulot et dire qu'on était malade, sans fric. Sans autre moyen pour rentrer que le stop. Passer la frontière à pied. Les vêtements chiffonnés, en sang, besoin d'une douche, blessé, apeuré. Je savais que tu serais à la maison si j'arrivais jusque-là. On me dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps.
Il reste 3 minutes et on devait diffuser un son, c'est pour ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, en vrai, il reste la moitié du chapitre, donc je pense qu'on va arrêter là.
Okay.
J'espère que ça vous a donné envie de lire la suite, même si là, c'était
la semaine prochaine.
Intense, peut-être, la semaine prochaine.
Ou peut-être dans 2 semaines, ça dépend quand tu sais ce que tu seras là.
Mm-mm.
Bah, merci beaucoup pour ce début de lecture, en tout cas.
Ouais.
J'espère que ça vous a pas trop frustré. Désolé, on a mal calculé notre temps.
Bah, c'est toujours trop court. Et du coup, le prochain son, c'est un artiste, enfin sa boîte, qui nous a envoyé le son par mail. Donc n'hésitez pas à faire pareil, en vrai c'est grave cool. Et donc c'est un son de Kenzo. Et ça s'appelle L'Océan. Et la production, c'est Armand.
Trop bien. Voilà, et si vous voulez retrouver le livre qu'on lisait, c'est Stone Butch Blues. Oui.
De Leslie Steinberg.
Et bah voilà. À la semaine prochaine.
Bisous tout le monde.
Bisous tout le monde.
À la semaine prochaine.
Salut, salut.
Gamin, je rêvais d'océan, de lointaines terres et de géants, mais pas d'y trouver le néant. En allant dans l'océan, aspiré par un béant, trongillé, perdu l'élan, au milieu des éléments, déchaîné comme un démon qui m'attirait tel un aimant. Dans les entrailles, évidemment, du vide à des lieux de maman, où rien ne fut comme avant. Bravant les flots, je domptais des eaux agitées, suivant le courant pour ne pas lutter,
pas lutter,
cherchant le réseau afin de remonter,
remonter
à la surface pour enfin m'échapper de la mélodie qui m'entraînait malgré tout vers le fond. Parodie de chants de sirènes provenant du tréfond, des abîmes ou bien de mon être, puisque l'on confond, lorsqu'on est sous pression, le vrai du faux par inattention. Dans l'océan, je m'enfonçais tant bien que mal tout en essayant de ne pas paniquer pour autant. Dans l'océan, j'ai tout tenté pour occulter mon sort effrayant tout en me débattant. J'ai tout tenté pour l'oublier tout en me débattant. En essayant de ne pas paniquer pour autant. Malmené par les vagues, je dérivais d'un infétude paille au péril de ma vie parmi les mailles d'un fil et sans trouver la faille pour passer au travers de ces tenailles naturelles qui s'apparentaient plus aux phénomènes surnaturels qu'au danger bien réel auquel j'ai été confronté, comme une ultime épreuve qu'il fallait surmonter pour que ce genre ne fût pas le dernier de ma carrière écourtée. Car si je m'étais résigné, j'aurais bien fini par couler sous une avalanche d'eau, j'y aurais laissé ma peau. On aurait baissé le rideau sur ma vie, mais mon ego jugeait cela beaucoup trop tôt de partir ainsi sans écho, dans le silence le plus atroce, sans avoir écrit un mot. À mes proches, à l'abandon, à qui je léguais que des questions sans réponse et sans raison de disparaître de cette façon. Sous une avalanche d'eau, je voulais pas y laisser ma peau. Sous une avalanche d'eau. Alors j'ai nagé sans arrêt, pratiquement pour me dégager, sans avoir le temps de douter de mes capacités, malgré l'énorme trajet déroutant qui me séparait de cette plage.